Donc je vais maintenant donner la parole à Dominique Martin, qui est actuellement postdoctorant au Center for Ethics à l'Université de Toronto, et qui est un ancien du CREOM, boursier du CREOM, boursier CRSH. Je pense savoir qu'il prépare un livre sur la notion d'éthique adversative dans les marchés, qui est issu largement de ses réflexions doctorales achevées cette année en mars, me semble-t-il. Voilà, je te cède donc la parole pour 12 minutes.
Merci beaucoup, Marc-Antoine. En passant, donc, c'est ça que j'étais en train de faire tout à l'heure, c'était travailler sur ce nouveau livre, et ce n'était pas de préparer cette conférence. Vous avez été mal informé, tout le monde, je tiens à le souligner. Donc, c'est ça, on m'a demandé de dire quelque chose sur quelle direction prendra la recherche en éthique économique dans les 10 prochaines années, quel avenir, ou en fait, quel défi, là, si j'ai bien compris, on voulait plutôt le formuler en termes de défi, là, je vais essayer de le formuler en termes de défi si possible. Avant de commencer, j'aimerais juste dire que donc moi j'ai commencé en fait ma thèse de doctorat en 2007, c'est-à-dire il y a tout juste 5 ans, ce qui est la moitié de cette période-là, donc ce qui ne me fait pas quand même une immense base pour extrapoler sur ce que seront les tendances futures dans les 10 prochaines années. D'ailleurs, en plus de ça, je pourrais dire, là, si je suis la terminologie qui a été mise en place par Daniel ce matin, que je fais définitivement partie de la catégorie de ceux qui n'ont pas besoin de dire qu'ils sont en marche, de ceux qui n'ont pas besoin de dire qu'ils sont en marche pour devenir ce qu'on devrait appeler des vieux. Donc, un jeune, ce qui me donne encore moins de perspective. D'ailleurs, parlant de Daniel, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Je pense qu'il n'est pas là. Non, il n'est pas là. C'est dommage que tu ne sois pas là, Daniel, parce que donc j'ai un souvenir très, très distinct, en fait, très, très clair, vif et très clair et vif du lancement ou du lancement du CREOM et de l'annonce du lancement du CREOM qui a été faite par Daniel il y a de cela 10 ans. Et c'était dans mon cours d'introduction à la philosophie politique pendant ma première année de mon baccalauréat en philosophie à l'Université de Montréal. Donc ça, c'est le moment où le CREOM a été lancé, ce qui vous en dit encore plus sur... C'est ça, sur ma perspective. Merci, Marc-Antoine. Bon, donc maintenant que je suis complètement discrédité comme intervenant, essayons de répondre à la question. Donc, je ne vais pas vraiment parler d'éthique économique au sens large, je vais plutôt me concentrer sur l'éthique des affaires. Parfois, on établit une distinction entre les deux. On décrit l'éthique des affaires plutôt comme une sous-discipline de l'éthique économique. Enfin, je ne sais pas si tous les éthiciens des affaires seraient d'accord avec cette distinction-là. Mais donc, ce serait une sous-discipline dans le sens qu'on s'intéresse plutôt aux acteurs non étatiques, comme les entreprises, évidemment, ou comme les agents, simplement, les agents individuels dans le monde des affaires. Donc, quels seraient en fait les défis ou les directions que prendrait l'éthique des affaires dans les 10 prochaines années? Pour répondre à la question, ce que j'aimerais faire en fait, c'est essayer de faire... l'éthique des affaires, donc, c'est une discipline de l'éthique appliquée qui est relativement jeune. Donc, dans son texte, Wayne Norman l'a fait remonter aux années 80. C'est le moment où les trois revues scientifiques les plus importantes en éthique des affaires sont apparues, dans les années 80-90. C'est aussi le moment où des associations professionnelles ou savantes d'éthiciens des affaires sont apparues, dont la SB, la Society for Business Ethics. Merci, Pierre. Donc, dans les années 80. Donc, une discipline relativement jeune. Et donc, je me suis un peu demandé si ce serait utile ou fécond de la comparer avec une autre discipline de l'éthique appliquée qui est un peu plus vieille, un peu plus mature, c'est-à-dire la bioéthique. Et peut-être que ça va anticiper un peu aussi sur ce qui va être dit demain. Donc, peut-être que des tendances ou des choses qui ont pris place en bioéthique dans les années passées attendent, en fait, les éthiciens des affaires dans les années futures. Et donc, j'aimerais identifier 3 de ces tendances-là, en fait, et chacune d'entre elles a un slogan. Hein? Donc 3 tendances que je vais essayer de reformuler comme des défis, parce que je pense que c'est ça que je devais faire, en fait. 3 tendances qui ont des slogans. Donc, mes 3 slogans sont, premier slogan, bientôt le retour du balancier. Deuxième slogan, nous regarderons vers le haut et vers le bas. Et troisième slogan, mon préféré, je dois l'admettre, nous nous libérerons de nos chaînes. OK, donc, trois slogans, trois directions. Donc, le premier, Le premier, bientôt le retour du balancier. Quand, premier défi ou première tendance. Quand j'ai commencé à faire de l'éthique des affaires, ou quand j'étais en contact avec l'éthique des affaires, c'était surtout par l'entremise de Wayne Norman, qui était un professeur ici, qui était mon directeur à la maîtrise. Donc, une des choses qu'on disait entre philosophes politiques, disons, c'est que entre philosophes politiques qui découvraient l'éthique des affaires, c'est que définitivement, les philosophes politiques avaient beaucoup de choses à apprendre aux éthiciens des affaires. Oui, beaucoup de choses à apprendre aux éthiciens des affaires. Et il y a vraiment eu un mouvement où c'est ce que certains philosophes politiques ont essayé de faire. Donc, Quint en est un exemple. Joseph Fee, donc, qui est au Center for Ethics, en est un autre. Il y a aussi John Boatwright, pour nommer un exemple parmi tant d'autres. Ce sont les premiers noms qui me viennent en tête. Ils avaient peut-être un peu raison, en fait, parce qu'il y avait toutes sortes de choses qui étaient très, très bien thématisées au sein de la philosophie politique, qui ne l'étaient pas vraiment au sein de l'éthique des affaires. Par exemple, il y avait un discours beaucoup plus sophistiqué sur ce qu'est la justice sociale, pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, mais aussi peut-être peut-être certaines choses qui ont trait à la rigueur argumentative ou à la clarté conceptuelle. Lorsqu'on argumente à propos de choses comme des normes ou des valeurs, c'était peut-être quelque chose que les philosophes politiques pouvaient apprendre aux éthiciens des affaires. Mais maintenant, 7 années plus tard, ou enfin, cette tendance-là, je pense, a commencé avant ça, je pense qu'on va assister à un retour du balancier, en fait, dans le sens que nous, philosophes politiques, ou éthiciens en général, aurons beaucoup de choses à apprendre des éthiciens des affaires ou des gens qui font de la recherche sur les affaires ou en administration, et que nous devrions les écouter. En fait. Il y a toutes sortes de choses qui sont complètement absentes du discours en philosophie politique ou qui sont vraiment traitées de manière superficielle, alors qu'elles ont un impact considérable, en fait, sur nos réflexions sur ce qu'est la justice sociale. Et là, je vais vous donner, en fait, 3 exemples. Premier exemple, c'est l'entreprise. L'entreprise est souvent traitée comme une boîte noire en philosophie politique. On en parle comme ça en passant. On dit que oui, c'est très... Donc, vous êtes une très bonne exception, en fait, de ce que je suis en train de dire. Donc, tant mieux. Mais vous êtes un exemple que cette tendance est vraiment en train de prendre place, un ou l'autre. Mais donc, l'entreprise est souvent traitée comme une boîte noire. On se contente de dire oui, les entreprises, c'est important. Et après ça, on passe à d'autres choses. Alors que dans le monde des affaires ou même en économie, il y a des discours extrêmement sophistiqués sur ce qui se passe à l'intérieur d'entreprise, les différents conflits, les luttes de pouvoir, et ça, c'est très, très, très important. Donc, première chose, prendre conscience de l'entreprise comme cet acteur social très important et avoir quelque chose comme une théorie de la firme en tête. Deuxième chose, prendre conscience du droit corporatif et des arguments au sein du droit corporatif. Ça aussi, ça a une énorme influence sur nos façons de concevoir les interactions entre politique et économie, par exemple, et c'est très, très peu traité en philosophie politique. Et troisième chose, il y a peut-être place pour maîtriser un peu mieux certains arguments économiques, comme par exemple les arguments sur l'efficience des marchés, sur l'efficience des marchés économiques, les premiers et deuxièmes théorèmes fondamentaux de l'économie et du bien-être, les concepts parétiens, donc l'efficience comprise au sens de Pareto, au sens de Kaldor-Hicks, qui sont sûrement des choses que vous avez toutes déjà entendues, mais qui ne sont pas nécessairement maîtrisées, alors que ça joue un rôle extrêmement important dans la justification de certains de nos arrangements sociaux. Et donc, nous tous, étant des éthiciens, des gens qui passent leur journée à réfléchir sur les inégalités socio-économiques, ce sont des choses, je crois, qui sont très, très importantes. Donc, retour du balancier, un peu plus peut-être de théorie de la firme et de ce genre de choses quand on fait de la philosophie politique. Et je vais donner 3 exemples où ça manque en philosophie politique. OK, merci. Donc, 3 exemples où ça manque en philosophie politique. Le premier exemple, c'est parce que c'est un livre que j'ai lu récemment et que des gens de l'autre côté de la montagne sont en train de le discuter au moment même où on se parle. Les travaux de John Tomasi, en fait, sur le libertarisme ou sur la démocratie de marché. Donc, il a publié un livre là, récemment qui s'appelle « Free Market Fairness ». Je ne vais pas résumer l'argument du livre parce qu'il me reste 5 minutes. Ça parle beaucoup de marché, disons. Ça parle beaucoup de l'importance des libertés économiques. Pourtant, dans ce livre fort intéressant par ailleurs qui est consacré à cette question-là, il n'y a pratiquement rien sur les entreprises et il n'y a définitivement aucune prise en compte de la théorie de la firme. Deux autres exemples qui sont dans le texte, en fait, de Wayne. La revue Ethics, qui mentionne pratiquement... Il n'y a aucun article depuis les années 80. C'est Wayne qui dit ça, c'est pas moi, mais il a fait un recensement, j'imagine, enfin. Ou il l'a juste googlé. Non, c'est une blague, Wayne. Rien dans la revue Ethics sur les entreprises et sur une tentative de prendre au sérieux la théorie de la firme. Même chose dans le journal Philosophy and Public Affairs, c'était mon troisième exemple, qui est une autre, évidemment, revue très, très importante dans le domaine de la philosophie politique, où il n'y a absolument rien sauf un article. Et par qui a été écrit cet article? Par?
Wayne.
Non, Joe Heath. Joseph Heath. Hein? Donc, c'est ça. C'est ce que Wayne dit. En fait. Donc, trois exemples. Donc, ça, c'était la première tendance, retour du balancier. Je vais aller très brièvement sur les deux dernières. Donc, deuxième tendance, le slogan, c'était « Nous regarderons vers le haut et vers le bas ». Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que les éthiciens des affaires depuis les années 80, on dirait qu'ils ont parlé des obligations morales des agents économiques dans une espèce de vide total, sans tenir compte de justifications plus fondamentales ou de théories morales plus compréhensives qui nous diraient pourquoi on devrait avoir des marchés économiques, pourquoi l'État devrait être organisé d'une certaine manière ou non. Il n'y a vraiment pas eu une tentative sérieuse de prendre en compte, par exemple, différentes théories de la justice pour parler des obligations morales des agents économiques. Et ça, je pense que c'est en train de changer. Wayne en a beaucoup parlé. Wayne a fait des contributions à ce niveau-là aussi. Il en parle dans son article. Je crois que c'est quelque chose qui va changer. Troisième point, nous nous libérerons de nos chaînes. Hein? Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, dans son article, Wayne anticipe vraiment une espèce de... Il y a un certain pessimisme, en fait, qui se dégage de son article. Il entrevoit une période de crise pour l'éthique des affaires. Je dois avouer que je ne partage pas tout à fait ses positions là-dessus. Je suis un peu plus optimiste. Et une des raisons pour ça, c'est que je crois qu'on est en train de vraiment vivre un changement paradigmatique, là, si vous me permettez cette expression kuhnienne, dans le sens où ce qui a été la théorie dominante en éthique des affaires pendant les 30 dernières années est vraiment sur le point de s'effriter ou de s'éroder. Quelle est cette théorie? C'est la théorie des parties prenantes, que certaines personnes, d'ailleurs, ont décrit comme un espèce de vampire, tant elle exerçait une influence dominante sur l'ensemble du discours en éthique des affaires. Et de plus en plus, je pense que les éthiciens des affaires vont cesser de tirer cette théorie comme un boulet et vont réussir à passer à autre chose. De la même façon, donc j'ai oublié de faire mes liens avec la bioéthique, mais là, je vais le faire pour ce dernier, troisième point-là. De la même façon, peut-être que les bioéthiciens ont réussi à laisser tomber le principisme de Beauchamp et Charles Dress qu'ils ont traîné pendant deux décennies, et de la même manière peut-être que les philosophes politiques ont finalement réussi à passer à d'autres choses après avoir traîné la morale kantienne pendant plus de deux siècles. Ouais.
Merci beaucoup. La dernière blague a été fatale. Hein?
Ça fait mal. Je ne fais pas des amis ce soir.
Merci beaucoup, Dominique.